Au sujet des rois, François de Malherbe écrit « Ce qu'ils peuvent n'est rien, ils sont comme nous sommes, véritablement hommes et meurent comme nous ». Je respecte cet auteur, mais ce qu'il dit est plutôt curieux. Même si les rois sont humains comme vous et moi, à cause de leur position, ils peuvent beaucoup. Sous le règne du bon roi Josias, le royaume de Juda expérimenta un certain renouveau spirituel puisque le peuple offrait à nouveau un culte à l'Éternel. Mais c'était du syncrétisme religieux, car l'idolâtrie n'avait jamais vraiment cessé. De plus, le roi commet l'erreur de sa vie, littéralement. Le pharaon, allié aux Assyriens, part en guerre contre les Babyloniens. Josias gonfle alors la poitrine et décide de lui barrer la route. Une très mauvaise idée puisqu'il est tué au combat qui eut lieu dans la vallée de Megiddo. Jérémie en fut très affecté et composa une complainte funèbre sur lui. Après la mort du bon roi, tous ceux qui lui succédèrent encouragèrent l'idolâtrie, ce qui, sur les plans moral et spirituel, fit sombrer le royaume de Juda de plus en plus bas. Josias, qui protégeait Jérémie n'étant plus de ce monde, le prophète se trouva davantage isolé et en très mauvaise posture. Je commence à lire le chapitre 12 de Jérémie. « Tu es juste, Éternel, comment donc oserais-je contester avec toi ? Cependant, je voudrais discuter avec toi de la justice. Pourquoi les méchants réussissent-ils ? Pourquoi les infidèles vivent-ils si tranquilles ? Oui, tu les as plantés et ils ont pris racine. Ils progressent sans cesse et ils portent du fruit. Tu n'as pas l'air de sonder leur cœur et tu sembles prêter foi à leurs paroles mensongères. » Verset 1 et 2. Jérémie se plaint à Dieu de l'injustice dont il est victime. Depuis que le monde est monde, un nombre incalculable de tyrans est venu au pouvoir et a prospéré souvent pendant de longues années alors que le peuple sur lequel il régnait gémissait. Aujourd'hui, je pourrais citer plusieurs despotes, mais peu importe leur nom, car le jour où ils auront disparu, il y en aura d'autres. Les succès insolents des hommes pervers et le revers des justes sont une des objections les plus importantes qu'on puisse élever contre le Dieu de la Providence. L'impunité, même temporaire, des hommes méchants est souvent évoquée tout au long des Écritures, et tous les auteurs sacrés cernent bien le problème, mais aucun ne le résout d'une manière satisfaisante à l'esprit humain. Par exemple, Job demande « Pourquoi les gens qui font le mal demeurent-ils en vie ? Pourquoi vieillissent-ils en reprenant des forces ? Ainsi, leur jour s'écoule dans le bonheur et c'est en un instant qu'ils rejoignent la tombe. » Fin de citation. Dieu a révélé un certain nombre de mystères à ses serviteurs, aux prophètes et aux apôtres, surtout à Paul. Mais le mystère du mal est encore tenu secret. Je continue le texte. « Toi, ô Éternel, tu me connais et tu me vois et tu sondes mon cœur qui a pris ton parti. Entraîne-les tout comme des moutons qu'on mène à l'abattoir. Réserve-les pour le jour du massacre. » Verset 3. Jérémie prononce cette imprécation contre les habitants de son village natal qui cherchent à lui faire la peau. Ce genre de prière peut choquer, mais il est en accord avec le régime de la loi qui, je le rappelle, disait aussi « œil pour œil et dent pour dent ». Je continue. « Jusque à quand le pays sera-t-il en deuil et l'herbe des campagnes se dessèchera-t-elle ? Et tout cela à cause de la méchanceté de ceux qui y habitent ? Les animaux périssent ainsi que les oiseaux parce que les gens disent « il ne verra pas notre fin ». Verset 4. Les habitants de Juda croyaient, bien à tort, que Jérémie disait n'importe quoi et que les menaces qu'il proférait étaient des paroles en l'air. Pourtant, à cause de leur rébellion contre l'Éternel, le pays subissait déjà une sécheresse sévère. Un des principes qui gouvernent l'univers est que la création souffre des conséquences du péché des hommes. Dans le chapitre précédent, Jérémie a dit qu'Israël était l'olivier verdoyant orné de fruits superbes. Cependant, maintenant, au bruit d'un grand fracas, l'Éternel y mettra le feu et ses rameaux seront brisés. Fin de citation. L'apôtre Paul reprend cette idée et écrit « Si les Israélites ont trébuché, est-ce pour tomber définitivement ?» Loin de là, par leur faux pas, le salut est devenu accessible aux païens, ce qui excitera leur jalousie. Ainsi en est-il d'Israël. Quelques branches ont été coupées, et toi qui, par ton origine païenne, étais comme un rameau d'olivier sauvage, tu as été greffé à leur place, et voici que tu as part avec elle à la sève qui monte de la racine de l'olivier cultivé. » Fin de citation. Les non-juifs qui ont placé leur foi en Jésus-Christ sont membres de l'Église universelle et ont part à la bénédiction que Dieu avait d'abord réservée à Israël. Je continue le texte. « Mais l'Éternel me dit, « Si déjà tu t'épuises à courir avec des piétons, comment donc tiendras-tu en courant avec des chevaux ? S'il te faut un pays tranquille pour ta sécurité, qu'adviendra-t-il de toi lorsque tu feras face à la crue du Jourdain ? Même tes frères, en effet, et les gens de ta parenté sont traîtres envers toi, et ils crient bien fort contre toi. Ne te fie pas à eux, même quand ils t'adressent des propos bienveillants. » Versets 5 et 6. L'Éternel ne répond pas à la question de son prophète concernant le mal. Mais en gros, il lui dit « Si tu crois avoir des problèmes, t'as encore rien vu. » Il appelle son serviteur à reprendre courage afin de pouvoir endurer les épreuves encore plus rudes qui l'attendent. En effet, ce n'était pas seulement ses concitoyens d'Anathoth qui se tourneraient contre Jérémie, mais les membres de sa propre famille. Je continue. « J'ai délaissé ma maison, j'ai rejeté mon héritage, le peuple qui m'appartient, j'ai livré à ses ennemis celle que je chéris. Car mon héritage est devenu pour moi comme un lion de la forêt, il rugit contre moi, c'est pourquoi je l'ai pris en haine. Mon héritage est-il donc devenu pour moi comme un rapace aux couleurs bigarrées pour que de toutes parts les autres rapaces l'entourent ? Venez, bêtes sauvages, rassemblez-vous pour le festin. » Versets 7 à 9. Israël, le bien-aimé de l'Éternel, s'est retourné contre son maître comme un lion rugissant. Et il paraît que les oiseaux de proie s'attaquent volontiers à ceux qui portent un plumage plus éclatant que le leur. Au milieu des autres nations, Israël était différent, exotique même. Cette qualité de peuple mis à part aurait dû faire de lui le premier de tous les autres s'il était demeuré fidèle à l'Éternel. Mais parce qu'il s'est révolté contre lui, il est livré en proie aux rapaces ordinaires, à ses ennemis, Babylone en tête. Je continue plus loin et finis le chapitre 12. Voici ce que déclare l'Éternel au sujet des mauvais voisins qui se sont attaqués au pays que j'avais donné en patrimoine à mon peuple Israël. Je vais les arracher de leur pays, et puis j'arracherai du milieu d'eux la communauté de Juda. Pourtant, après les avoir arrachés, j'aurai de nouveau pitié d'eux. Et je les ferai retourner chacun dans son domaine, chacun dans son pays. Et s'ils apprennent à se comporter comme mon peuple, s'ils prêtent serment par mon nom, disant « L'Éternel est vivant », comme ils ont appris à mon peuple à jurer par Baal, alors ils auront une place au milieu de mon peuple. Mais s'ils n'écoutent pas, j'arracherai une telle nation définitivement, et je la détruirai, l'Éternel le déclare. » Versets 14 à 17. L'Éternel parle en tant que propriétaire du pays d'Israël. Les voisins sont les peuples qui habitent autour d'Israël. Les Ammonites, les Moabites, les Édomites, les Syriens qui avaient fréquemment envahi et dévasté la Palestine. Ils seront jugés comme les Israélites et déportés. Mais une fois Juda revenu d'exil, ses voisins aussi reviendront dans leur pays. Si ces anciens séducteurs d'Israël qui l'entraînaient à l'idolâtrie se convertissent et adoptent sa foi en l'Éternel, ils deviendront ses hôtes et incorporés au peuple de Dieu, ils habiteront la terre sainte agrandie avec Israël. Dans le chapitre 13, Jérémie prophétise au moyen de symboles. Je commence à le lire. L'Éternel me parla ainsi. « Va acheter une ceinture de lin et mets-la autour de la taille. » Mais ne la mouille pas. Verset 1. Ce n'est pas que Jérémie avait pris du poids et devait le contenir. Loin s'en faut, il avait plutôt maigri à cause de ses ennuis. À cette époque, la ceinture servait à maintenir en place les longs habits qu'on portait quand on se préparait à faire un travail. Le Christ a dit à ceux qui voulaient le suivre « que vos reins soient ceinturés », c'est-à-dire soyez toujours prêts à faire ce qui vous sera demandé. Jésus lui-même, avant de laver les pieds de ses disciples, prit une serviette de lin qu'il se noua autour de la taille. Par cet acte symbolique, il enseignait d'une part ce que servir veut dire, et d'autre part que ses disciples doivent être constamment lavés de leurs fautes, c'est-à-dire qu'il les ait reconnus devant Dieu. Dans ce chapitre, Jérémie va décrire la corruption et l'aveuglement d'Israël au moyen d'un mime prophétique. Puis il annoncera au peuple, au roi et à la reine, et à Jérusalem, le sort terrible qui les attend. L'acte symbolique de la ceinture de lin est destiné à attirer l'attention des habitants de Jérusalem et de communiquer un message. Une telle ceinture était un luxe porté par les prêtres. Plus loin, on apprend qu'elle représente Israël. De plus, elle ne devait pas être lavée afin de garder toute sa pureté originelle. En effet, une fois mouillée, elle perd son lustre et sa fraîcheur première. Pareillement, Israël aurait dû demeurer fidèle à l'alliance avec l'Éternel et conserver ainsi son état de consécration primitif. Je continue le texte. « Je m'achetais donc la ceinture, comme l'Éternel me l'avait demandé, et me la mise autour de la taille. L'Éternel me parla une seconde fois pour me dire, « Prends la ceinture que tu as achetée et que tu portes à la taille, et mets-toi en route, va jusqu'à Pérate, et là, enfouis-la dans une fente de rocher. » Je partis donc, et je cachai la ceinture près de l'Euphrate, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Versets 2 à 5. Ce nouvel acte symbolique représente le jugement que le peuple va subir lorsqu'il sera exilé à Babylone sur les bords de l'Euphrate. La ceinture doit être exposée à l'action des eaux du fleuve, mais non pas emportée car le prophète devra pouvoir la retrouver plus tard. Je continue. Après bien des jours, l'Éternel me dit, « Mets-toi en route, retourne sur les bords du Pérate et reprends la ceinture que je t'ai ordonné de cacher là-bas. » Je me rendis donc près de l'Euphrate, je creusai et je pris la ceinture à l'endroit où je l'avais cachée, mais elle était tellement abîmée qu'elle ne pouvait plus servir à rien. Alors l'Éternel me parla en ces termes, « Voici ce que déclare l'Éternel. C'est de cette manière que je vais abîmer ce qui fait la fierté des Judéens, la grande fierté de Jérusalem. » Versets 6 à 9. Jérémie a dû creuser pour retrouver ce qui restait de la ceinture et qui était recouvert de limon et de gravier. La captivité de Juda servira à humilier la nation et à la guérir de son idolâtrie maladive. Je continue plus loin. « Tu leur diras ceci. Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Les cruches sont faites pour être remplies de vin. » Et ils te répondront, « Ne savons-nous pas que les cruches sont faites pour être remplies de vin ? » Tu leur diras alors, « Voici ce que déclare l'Éternel, je vais remplir d'ivresse tous les habitants de ce pays-ci et les rois qui occupent le trône de David, ainsi que les prêtres et les prophètes et tous ceux qui habitent Jérusalem. Puis je les briserai les uns contre les autres, les fils avec les pères. » L'Éternel le déclare, « Ni pitié, ni merci, ni compassion, rien ne m'empêchera de les détruire. » Versets 12 à 14. Après avoir dit cette lapalissade, « Les cruches sont faites pour être remplies de vin », les gens vont se moquer de Jérémie sans se douter de l'application terrible qu'il va en faire. Dans les Écritures, la colère de Dieu est souvent comparée à un vin qui enivre et assomme. Ici, en plus, au moment de l'invasion par les Babyloniens, la condition sociale et politique de Jérusalem sera au plus bas à cause de luttes internes et ceux qui devront défendre la ville seront occupés à s'entre-déchirer. Je continue. « Écoutez et prêtez l'oreille et ne soyez pas orgueilleux. C'est l'Éternel qui parle. rendez gloire à l'Éternel, votre Dieu, avant qu'il fasse venir les ténèbres et que vos pieds trébuchent sur les montagnes où la nuit est tombée. Vous vous attendez la lumière, il la transformera en profondes ténèbres. Oui, il la changera en un sombre nuage. Versets 15 et 16. Jérémie supplie encore le peuple d'honorer l'Éternel, ce qui implique la repentance et l'obéissance. Sinon, un jugement terrible tombera sur lui. Je continue. « Si vous n'écoutez pas, je pleurerai secrètement. Sur votre orgueil, mes yeux ruisselleront de larmes, car le troupeau de l'Éternel va être déporté. » Verset 17. Les larmes du prophète reflètent sa tristesse et celle de l'Éternel face à l'attitude rebelle et obstinée de son peuple qui va connaître l'exil. Je continue. « Déclare au roi et à la reine-mère, abaissez-vous, asseyez-vous, car il a été enlevé de votre tête, votre superbe diadème. » Verset 18. Dans les cours orientales, où la polygamie était de mise, la reine-mère jouait un rôle prépondérant. Cet oracle a été prononcé au début de l'an 597 avant Jésus-Christ au roi Yehoiakim, qui n'avait alors que 18 ans, et à sa mère, qui détenait le vrai pouvoir. Je continue plus loin ce discours de Jérémie au roi et à la reine-mère. « Que diras-tu de ce qu'il te châtie? C'est toi-même qui leur a appris à dominer en maître sur toi. Les douleurs ne te saisiront-elles pas comme la femme qui enfante ?» Verset 21. Juda avait recherché une alliance avec les Babyloniens, mais maintenant ils sont devenus ses maîtres. Comme la reine-mère avait joué son rôle dans cette politique néfaste, c'est en premier lieu à elle que s'adressent les paroles du prophète. Je continue plus loin. « Et si tu te demandes pourquoi tout cela m'est-il arrivé, sache que c'est à cause de tes nombreuses fautes que les pans de ta robe ont été relevés et que tes talons sont violentés. » Verset 22. « Les traitements les plus honteux seront imposés aux captifs, même à ceux de plus haut rang. Les déportés devront marcher jusqu'à Babylone, les pieds nus, un parcours d'environ 800 kilomètres. » Je finis le chapitre 13 en compressant. Un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Un léopard, les taches de son pelage? De même, comment pourriez-vous vous mettre à bien agir, vous qui avez pris l'habitude de commettre le mal? J'ai vu tes adultères et tes hennissements, tes prostitutions exécrables, tes idoles abominables, sur toutes les hauteurs dans la campagne. Malheur à toi, Jérusalem, jusque à quand resteras-tu impur? Versets 23 et 27. Jérémie souligne la gravité de l'état moral de ses contemporains. Le mal est ancré si profondément au fond du cœur humain qu'on ne peut pas, de nous-mêmes, y remédier. Cependant, Dieu pourvoit un moyen de salut, mais les Israélites n'en ont pas voulu. Je commence à lire le chapitre 14 en compressant. Voici ce que dit l'Éternel à Jérémie concernant la sécheresse. Juda est dans le deuil, ses villes dépérissent, leurs habitants sont affligés. Arrivés aux citernes, ils ne trouvent pas d'eau, et ils reviennent avec des cruches vides, embarrassés, penauds. Ils se voilent la face, le sol est crevassé, car la pluie a manqué, et les cultivateurs, déçus dans leurs espoirs, se cachent le visage. La biche dans les champs abandonne son fang après l'avoir mis bas, car il n'y a plus de verdure. Verset 1 à 5. Le mot pour sécheresse est au pluriel, ce qui indique un fléau de grande envergure qui restera dans les mémoires. Le manque d'eau était l'une des malédictions dues au non-respect de l'alliance avec l'Éternel. Dans les Écritures, on compte au moins 13 sécheresses principales qui sont des jugements de Dieu. Tout le pays était sec et stérile, comme ses habitants, parce qu'ils avaient rejeté l'Éternel, la source d'eau vive. Ce qui arrivait physiquement à la terre était une réflexion de ce qui se passait dans les cœurs des Israélites au niveau moral et spirituel. Je continue plus loin. « Même si nos péchés témoignent contre nous, ô Éternel, agis pour l'honneur de ton nom. Nos infidélités se sont multipliées, nous avons péché contre toi. Toi, l'espoir d'Israël, toi celui qui le sauve au temps de la détresse, pourquoi te conduis-tu comme un simple étranger dans le pays ou comme un voyageur s'arrêtant pour la nuit? Pourquoi te conduis-tu comme un homme éperdu, comme un guerrier qui ne peut délivrer? Et pourtant tu es parmi nous, ô Éternel, et nous portons ton nom. Ne nous délaisse pas. Versets 7 à 9. À partir d'ici commence une série de 5 cycles de prières qui sont aussi des dialogues puisque l'Éternel les écoute et y répond. Jérémie avait reçu l'ordre de ne plus prier pour son peuple, mais il ne peut s'empêcher de le faire et il est hardi dans son intercession, on pourrait même dire gonflé. Il fait valoir à l'Éternel que son honneur est lié au sort du peuple. Il n'est pas le premier à agir ainsi. Moïse, Josué et Ésaïe ont déjà utilisé ce même argument. Si Dieu ne délivre pas Israël, les païens vont croire qu'il n'en est pas capable, ou bien qu'il porte peu d'intérêt pour son peuple, comme le voyageur de commerce qui n'a aucun attachement aux endroits où il ne s'arrête que pour une nuit. Je continue. Voici ce que déclare l'Éternel à ce peuple. Ils trouvent leur plaisir à errer ça et là sans retenir leurs pas. Mais voilà, l'Éternel ne le tolère pas. Il va se souvenir maintenant de leurs crimes. Il va châtier leurs fautes. Et l'Éternel me dit, « Ne me prie plus pour le bien-être de ce peuple. Ils auront beau jeûner, je n'écouterai pas leurs cris. Et quand ils m'offriront des holocaustes et des offrandes, je ne les accepterai pas. Je m'en vais les exterminer par l'épée, par la famine et par la peste. » Versets 10 à 12. Dieu donne deux réponses à son prophète. Il doit cesser d'intercéder parce qu'il ne répondra à aucune prière et il va juger Juda à cause de son idolâtrie chronique car son refus de se repentir doit être sanctionné. L'épée, la famine et la peste étaient trois malédictions attachées au non-respect du traité d'alliance. Dans sa réponse à Jérémie, l'Éternel ne prend pas en considération son honneur car sa justice doit d'abord être satisfaite. Parce que Dieu est juste, Jésus-Christ a dû mourir pour nos péchés, et tous ceux qui ne le prennent pas pour refuge seront condamnés. Une dure réalité à méditer.